Vous écoutez, on lit pour vous.
5 questions sur le service d'employabilité. 1. Quelle est la clientèle desservie aujourd'hui par le service d'employabilité de Mémo Québec? Le service d'employabilité est spécialisé dans l'accompagnement des personnes ayant des limitations physiques ou neurologiques sur le territoire de l'île de Montréal. Il accompagne les participants et les participantes dans leur recherche d'emploi ou leur orientation professionnelle. Si vous voulez bénéficier du service d'employabilité, vous devez être âgé de plus de 16 ans. Une preuve d'un diagnostic médical vous sera également demandée pour permettre un meilleur accompagnement. 2. Combien de personnes sont desservies par le service? L'entente mise en place avec Service Québec autorise l'organisme à accueillir cette année 194 nouveaux participants. L'an passé, le service a dépassé son objectif en termes de placement en emploi de 147% et a placé 133 personnes alors que la demande initiale était de 92. Les participants sont accompagnés par une des 3 conseillères en emploi, par la conseillère en orientation ou par l'agent d'intégration, en fonction de leurs besoins, sur une période maximale de 52 semaines, soit une année. Quand le service reçoit une nouvelle demande, cette dernière est traitée dans les semaines qui suivent. Il n'y a aucune liste d'attente pour rencontrer un ou une conseillère de Mémo Québec. 3. Quel est le processus mis en place une fois le participant admis? Le ou la conseillère prend le temps d'évaluer les besoins du participant ainsi que ses intérêts et ses limitations. Il est en effet important pour l'accompagnement de déterminer ce que le participant peut faire. Un plan d'action est ensuite défini avec le participant et des démarches sont entamées pour chercher un emploi, préparer un CV, une lettre de présentation, faire des simulations d'entrevue ou encore faire des suivis avec les employeurs. Le ou la conseillère essaie d'outiller le participant, de l'amener à croire en ses compétences et de développer son autonomie pour qu'il puisse, par la suite, effectuer ses recherches seul. Les conseillers aident aussi les participants à mieux se préparer pour divulguer leurs limitations en milieu de travail. Il est possible que les conseillers collaborent avec d'autres ressources telles que les centres de réadaptation et leur réfèrent un participant afin de procéder à une évaluation concrète de ses capacités de travail ou pour une adaptation de poste de travail. Citation : La motivation des participants compte pour beaucoup, conclut Samira Fezzani, la coordonnatrice du service. Et nous, on croit en eux. Fin de citation. 4. Qui travaille au service d'employabilité et quels sont les rôles de chacun? Agent d'intégration et de maintien en emploi, par Rudy Carlier. Mon rôle en tant qu'agent d'intégration et de maintien en emploi est d'offrir un accompagnement intensif et personnalisé directement dans le milieu de travail auprès des personnes nécessitant un accompagnement plus soutenu, et ce, alors qu'elles occupent déjà un emploi ou s'il s'agit de leur premier emploi. Ce qui me stimule en tant que professionnelle, c'est le besoin et la capacité à m'adapter à différents milieux de travail et à divers secteurs d'activité. Cela me plonge dans des interventions parfois rapidement. À ce moment-là, je dois être capable d'analyser une situation problématique face à des difficultés conjoncturelles ou personnelles, tout en composant à la fois avec le travailleur et l'employeur. Ce poste valorise mes capacités d'adaptation et de compréhension des enjeux de chacun. Mon quotidien, qui ne se limite pas qu'au bureau, m'amène à intervenir sur place en milieu de travail. Ce que j'apprécie, c'est le développement d'outils, de stratégies applicables en milieu de travail pour favoriser l'acquisition, le développement et le maintien des compétences dans l'autonomie de la personne, ainsi que ma contribution au processus de résolution de conflits. Mes réussites dans mon travail au quotidien sont significatives par ma présence et ma sensibilisation à travers l'implantation, l'accompagnement individualisé et soutenu auprès des différents acteurs, participants, employeurs. Les solutions que je propose face aux obstacles importants que peuvent rencontrer nos participants pour intégrer ou réintégrer leur emploi et pour les y maintenir sont le résultat d'échanges, de dialogues, de sensibilisation et d'aide apportée pour se comprendre l'un l'autre face à nos propres repères de vie et de situation. En résumé, les activités de l'agent d'intégration sont multiples et s'adaptent aux besoins de la personne dans son milieu de travail. Conseillère en emploi, par Sonia Roy. Ce n'est pas souvent que j'ai la chance de parler de mon rôle de conseillère en emploi auprès des personnes en situation de handicap, un emploi que j'exerce depuis bientôt 15 ans. Mon principal rôle est de prodiguer des conseils et de donner des outils aux participants-participantes qui sont à la recherche d'un emploi, ce, sur tous les aspects de la recherche et de la planification de leur carrière. Je conseille également les employeurs sur les bonnes pratiques d'embauche. Ce travail me permet d'aider concrètement les personnes à s'engager professionnellement et à devenir des acteurs importants dans notre société. C'est très valorisant de voir une personne retrouver sa confiance en elle au moment où elle se fait offrir un emploi. En proposant un accompagnement personnalisé aux personnes en recherche d'emploi, je contribue à leur épanouissement professionnel et à la valorisation de leurs compétences. Ma plus grande réussite est de défaire les préjugés que peuvent avoir les employeurs lors de l'embauche d'une personne en situation de handicap et de voir les personnes que j'accompagne dans des emplois valorisants et inclusifs. Conseillère en orientation, par Mélissa Lévy. Je suis conseillère en orientation chez Mémo Québec depuis une quinzaine d'années maintenant. Mon rôle est d'accompagner les gens qui me consultent dans leurs réflexions quant à leur place sur le marché du travail. Plusieurs se sentent perdus, à la croisée des chemins, dans le brouillard ou au creux de la vague, lorsqu'ils viennent pour la première fois dans mon bureau. Toutes ces métaphores éloquentes illustrent chez nos clients le besoin de prendre le temps de se déposer, de poser un regard nouveau sur leur situation et de construire un projet professionnel. J'offre un espace de compassion et de compréhension face à ce qui est vécu, ainsi qu'un accompagnement dans la recherche de solutions. Je prends le temps de revenir avec eux sur leurs expériences antérieures pour établir leur bilan de compétences. Je leur propose des exercices de connaissance de soi ou l'administration de tests psychométriques. L'important, c'est que les gens se connaissent mieux pour choisir des environnements de travail qui leur conviennent, une mission professionnelle qui donne un sens à leur parcours et qu'ils effectuent des tâches qui leur plaisent. En fonction des gens que je rencontre, les parcours et les projets varient grandement. Je suis touchée chaque fois que je vois une personne qui retrouve un sens à son parcours professionnel, un objectif à atteindre ou un sentiment de participer à nouveau à la société. 5. Et si je ne suis pas admissible à un suivi avec Mémo Québec, car je n'habite pas sur l'île de Montréal? Pour les personnes ayant des limitations et qui souhaiteraient recevoir un soutien dans leur recherche d'emploi ou d'orientation professionnelle et qui habitent dans les autres régions du Québec, il existe d'autres services du même type dans chaque région de la province. Le ROSEPH, R-O-S-E-P-H, le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, est une organisation à but non lucratif qui regroupe 25 organismes spécialisés qui favorisent l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Il vous suffit de vous rendre sur le site Internet et de chercher l'organisme auquel vous adressez dans votre région, https://ROSEPH.ca. Un milieu de travail adapté, c'est quoi? Afin d'être en mesure d'accomplir leurs tâches de travail, les personnes avec incapacité peuvent avoir besoin que leur milieu de travail soit adapté à leur état et notamment avoir accès à un horaire flexible ou une réduction du temps de travail, une redéfinition des tâches telles que des tâches modifiées ou différentes, un poste de travail modifié ou ergonomique, du matériel informatique ou encore à une aide technique, par exemple synthétiseur vocal, du soutien humain, par exemple interprète en langage gestuel, lecteur, etc., et un environnement de travail accessible, par exemple ascenseurs adaptés, rampes, etc. Source : Cyberbulletin officiel de l'Office des personnes handicapées du Québec. C'était 5 questions sur le service d'employabilité, paru dans l'édition hiver 2025 de la revue Paraquad.
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un texte de la rédaction paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. Cette fondation a choisi de s'impliquer il y a 12 ans auprès des personnes proches aidantes. À l'époque, la proche aidance était une cause naissante et très peu discutée, selon Joël Paris-Julien, son directeur général. Aujourd'hui, alors que la cause gagne en visibilité, la Fondation concentre ses actions sur l'intégration du proche aidant dans l'équipe de soins, de le voir davantage comme un allié du réseau et un partenaire essentiel dans ce qu'il nomme la triade « patient, médecin, aidant ». En finançant des projets structurants et innovants qui viennent en aide aux personnes proches aidantes, la Fondation vise à améliorer leur accès aux ressources et aux soins. Il y a un énorme poids qui est mis sur les personnes proches aidantes. C'est un grand enjeu au Québec. Une personne sur trois est proche aidante, c'est-à-dire qu'elle donne au moins une heure par semaine de son temps pour aider une autre personne. La question n'est pas de se demander qui est proche aidant, mais plutôt quand sera-t-on proche aidant, constate le directeur général de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. La reconnaissance comme l'un des besoins principaux des personnes proches aidantes. En 2022, après avoir financé des projets de répit pendant 10 ans, la Fondation a voulu prendre le pouls des régions en y tenant des ateliers d'innovation sociale dans le but de valoriser l'apport des proches au réseau de la santé. Ses conclusions ont mis en lumière 8 besoins. Celui de la reconnaissance est arrivé en tête. À la fois l'auto-reconnaissance, la reconnaissance par les pairs, par les autres membres de la famille, par les employeurs, par la société, par les professionnels de la santé en tant qu'experts du patient. Durant ces ateliers, ça m'a fait un choc de voir que certaines personnes que les autres voyaient naturellement comme des aidants pour leur enfant ou leur partenaire n'avaient pas réalisé elles-mêmes leur rôle, se souvient Joël Paris-Julien. Une fois cette reconnaissance, ce diagnostic, comme il le dit, effectué, il permet au proche aidant d'avoir accès aux ressources dont il a besoin, par exemple des crédits d'impôt, de l'aide du CLSC ou une adaptation de domicile. Le fait de prendre soin de la santé des personnes proches aidantes leur permet de ne pas aller aussi loin dans l'épuisement, souligne le directeur général de la Fondation. Et certaines procédures administratives, par exemple, méritent d'être facilitées. La Fondation, à travers l'expertise des médecins spécialistes, cherche également à avoir un impact structurant sur le réseau de la santé, notamment en mettant en lumière les besoins des personnes proches aidantes auprès des décideurs. Quand nous évoquons, en commission parlementaire, l'inclusion des personnes proches aidantes dans l'équipe de soins, nous avons une crédibilité politique. On nous écoute. Les bienfaits d'une loi. Joël Paris-Julien reconnaît que l'existence d'une définition officielle par le gouvernement, la présence d'une loi et d'un plan d'action reconduit tous les 5 ans, est très encourageant pour la prise en compte des proches aidants, de leur statut et de leur situation. C'est le seul endroit au monde où il y a une loi sur la proche aidance. Mais on doit faire plus. On peut faire plus. Autre ressource. Si vous avez d'autres questions concernant votre rôle de personne proche aidante, vous pouvez également contacter Proche Aidance Québec, qui est un regroupement de 124 organismes communautaires œuvrant en proche aidance à travers la province. Ils se spécialisent notamment dans la défense des droits des proches aidants. Contacts et informations. Adresse courriel info@procheaidance.quebec. Téléphone 514-524-1959. Site internet procheaidance.quebec. C'était la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, un texte de la rédaction paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
Appels frauduleux, navigation privée et routeurs zombies. Un texte d'Alain McKenna paru le 8 octobre 2025 dans la presse. Question d'une lectrice, Sophie Toupin. Je reçois régulièrement des appels d'une firme qui se dit mandatée par Google Affaires. Le mois dernier, on m'a dit que mon adresse Gmail était un courriel d'affaires et qu'elle me coûterait plusieurs milliers de dollars. Est-ce que je risque d'avoir à payer Google? Vous avez raison de vous méfier de ces appels. Il s'agit d'une arnaque et vous n'avez aucune somme à payer à Google. Ces tactiques agressives sont très courantes. Des firmes peu scrupuleuses exploitent le nom de géants comme Google et Microsoft pour effrayer les propriétaires de petites entreprises. Leur modèle d'affaires repose entièrement sur la peur et la confusion qu'ils sèment. Ils utilisent des informations publiques, comme le nom de votre ancien commerce et sa fiche d'établissement Google, pour se donner une fausse crédibilité. Ni Google ni Microsoft ne vous appelleront de façon impromptue pour vous menacer ou vous réclamer de l'argent. Une adresse courriel standard se terminant par @gmail.com est un service gratuit, peu importe l'usage que vous en faites. L'idée qu'elle puisse soudainement entraîner une facture de plusieurs milliers de dollars est une pure invention conçue pour vous faire paniquer. La prochaine fois que vous recevrez un appel de ce genre, raccrochez. Si possible, bloquez le numéro de téléphone pour ne plus être importuné. Ne confirmez jamais d'informations personnelles et, surtout, ne donnez jamais d'informations de paiement. Question d'un lecteur, Louis Bouchard d'Orval. Sur mon navigateur web, j'ai une fonction « Navigation privée ». Quelle est l'utilité de cette fonction? Peut-on l'avoir sur son téléphone ou son ordinateur? La navigation privée est offerte sur presque tous les navigateurs web modernes, sur ordinateur, téléphone et tablette, même sur certaines télés connectées. Pensez à ce mode comme à une navigation web avec mémoire à court terme. Son utilité principale est d'effacer les traces de votre activité dans la fenêtre de navigation et sur l'appareil que vous utilisez au moment où vous fermerez cette fenêtre. Votre historique de recherche, les témoins, cookies, et les informations entrées durant cette séance en ligne ne seront plus sur l'appareil. C'est pratique si vous utilisez un ordinateur public et que vous ne voulez pas y laisser les accès à vos comptes. C'est idéal pour chercher une idée de cadeau sans laisser d'indice à votre douce moitié. Ce mode ne vous rend ni anonyme ni invisible sur l'Internet. Il empêche seulement votre appareil de se souvenir de ce que vous avez fait. Votre fournisseur de services Internet, votre employeur sur le réseau du bureau et les sites web que vous visitez noteront votre activité. La navigation privée ne masque pas votre adresse Internet IP, qui est votre identifiant sur le réseau. Question d'une lectrice, Isabelle Renz. Est-ce qu'il faut absolument activer la sécurité avancée de son routeur à la maison pour empêcher un pirate informatique d'accéder à nos données personnelles ou à une caméra de surveillance connectée au Wi-Fi? La sécurité de votre routeur est fondamentale, mais ne vous protège pas de toutes les menaces en ligne. Votre routeur est comme la porte d'entrée de votre immeuble. Si la porte de votre propre appartement, la caméra, est laissée sans surveillance, un intrus pourrait quand même y accéder. Les services de sécurité avancés offerts par les fournisseurs de routeurs ajoutent une couche de surveillance utile, mais ne remplacent pas les bonnes pratiques de base, gratuite et efficace. Le maillon faible n'est souvent pas le routeur, mais l'accessoire, dans votre cas, la caméra. De nombreux pirates sont à la recherche d'appareils mal configurés qui utilisent le mot de passe par défaut inscrit dans le manuel « Admin 12345 ». Une fois qu'ils y ont accès, ils n'ont probablement pas envie de vous épier, mais plutôt de transformer l'appareil en zombie qu'ils contrôleront à distance pour attaquer des sites web. En contrôlant quelques millions de ces appareils, un pirate peut facilement provoquer la panne du site ciblé. Ça semble anodin, mais si le site en question est jugé critique, comme celui d'une banque ou d'un service public, ça peut avoir des effets plus importants qu'on pense. Pour vous protéger adéquatement, vous devriez changer le mot de passe de votre caméra ou de tout autre appareil connecté, le mot de passe d'administration de votre routeur, puis sécuriser votre réseau Wi-Fi en adoptant un niveau de chiffrement WPA2 ou WPA3. Et, bien sûr, débranchez les gadgets connectés dont vous ne vous servez pas. C'était « Appel frauduleux, navigation privée et routeur zombie », un texte d'Alain McKenna paru le 8 octobre 2025 dans La Presse.
Hydroponie en Arctique, un essai pas encore transformé. Un texte de Nelly Guidici, G-U-I-D-I-C-I, publié le 17 novembre 2025 dans le Nunavoie. Au territoire du Nord-Ouest, la serre communautaire d'Inuvik joue un rôle clé dans l'autonomie alimentaire locale. Depuis 1998, elle permet à des centaines de résidents de cultiver leurs propres légumes. Un projet de ferme hydroponique hivernale a vu le jour en 2021, mais les coûts énergétiques posent de grands défis à sa viabilité. Depuis la fin des années 1990, l'ancienne aréna d'Inuvik, qui a été transformée en serre, offre un lieu tout à fait unique dans le Nord. L'objectif initial de renforcement du sentiment d'appartenance communautaire, grâce au jardinage récréatif, à la production alimentaire, au partage des connaissances et aux possibilités de bénévolat, a été largement acquis. Au tournant de l'an 2000, près de 100 personnes étaient adhérentes de l'organisme Inuvik Community Greenhouse. On en compte aujourd'hui 150. En 2021, une unité hydroponique achetée auprès de Coal Acre a été installée à côté de la serre. Financée grâce à une subvention de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, CanNor, l'ajout de cette unité devait permettre, citation, « d'étendre les activités de la serre et éventuellement d'en faire une source de financement en permettant la culture de produits pendant l'hiver ». Fin de citation, explique Peter Clarkson, maire d'Inuvik et membre du conseil d'administration de Inuvik Community Greenhouse. Des légumes frais, notamment des salades, épinards, choux frisés et herbes, ont été vendus durant l'été à l'image d'un micro-marché communautaire. Des salades, épinards, choux frisés et herbes aromatiques ont été vendus aux membres de la communauté durant la saison estivale 2025. Courtoisie, Peter Clarkson. Le coût énergétique. Cependant, le conseil d'administration a dû faire face à plusieurs obstacles, dont le coût énergétique nécessaire pour faire fonctionner la ferme. En effet, c'est au Nunavut et au territoire du Nord-Ouest que le coût de l'électricité est le plus élevé au Canada. Selon l'Agence canadienne de l'énergie renouvelable, les tarifs résidentiels d'électricité varient d'une collectivité à l'autre, mais à Inuvik, le kilowatt-heure coûte plus de 80 cents. Pour réduire ces coûts, des panneaux photovoltaïques ont été installés, mais des retards dans les permis ont empêché leur utilisation pendant plusieurs années. Et bien que les panneaux permettent maintenant d'accumuler des heures de production énergétique durant l'été, cela n'a pas suffi pour maintenir l'activité lors de l'hiver dernier. M. Clarkson estime que sans l'énergie solaire, l'unité hydroponique serait trop coûteuse et impossible à faire fonctionner. Citation. Dans un monde idéal, la ferme aurait donc fonctionné d'octobre à mars, soit pendant 6 mois. Mais cette année, en raison d'un autre problème avec des panneaux solaires, nous ne la ferons pas fonctionner du tout cet hiver, car nous n'avons pas pu accumuler les heures nécessaires. De plus, le personnel que nous avions formé pour la faire fonctionner n'est plus à Inuvik. Fin de citation. Peter Clarkson, maire d'Inuvik. En plus des problèmes de rétention du personnel, M. Clarkson ne se dit pas convaincu par l'isolation du conteneur qui, selon lui, ajoute au coût de la facture d'électricité. Lorsque la température chute à moins 40 degrés, la consommation d'énergie grimpe car il faut maintenir la chaleur à l'intérieur afin de créer un environnement propice à la croissance des légumes. Avec la fermeture de Coal Acre, plus aucun soutien technique n'est disponible, laissant la communauté seule face aux éventuels problèmes du système. La durabilité économique des fermes hydroponiques dans l'Arctique canadien reste à prouver, selon M. Clarkson. Citation. La faisabilité de ce type de culture dans le Nord est donc difficile en raison de nos coûts énergétiques élevés, mais aussi, même si l'énergie n'était pas en cause, le temps consacré par le personnel pour s'en occuper est un autre défi. Fin de citation. Une approche globale. Malgré ces obstacles, Peter Clarkson estime que le projet a eu le mérite de tester une solution alternative pour améliorer la sécurité alimentaire hivernale. Toutefois, selon lui, l'approche la plus réaliste reste l'agriculture estivale. Grâce à la serre communautaire et aux jardinières individuelles, les résidents peuvent cultiver assez de pommes de terre, de légumes, racines et verdures pour plusieurs mois. C'est durant l'été qu'une différence en matière de souveraineté alimentaire peut être faite. Pour Peter Clarkson, l'avenir passe par une approche holistique mêlant initiatives communautaires, éducation au jardinage, technologies adaptées au climat nordique et soutien financier ciblé. C'était Hydroponie en Arctique, un essai pas encore transformé, un texte de Nelly Guidichi, publié le 17 novembre 2025 dans le Nunavoie.